C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et c'est parti pour C'est Ludique. Aujourd'hui, je vous parle de Cobble and Frog, le nouveau Unmatch. Unmatch, c'est une série de jeux où des figurines de différents univers s'affrontent. Cette création de Rob Davio est éditée en France par Yellow. Alors, chaque jeu de la série Unmatch a le même ensemble de raids de base. On va faire un tour des règles communes à la série Unmatch. Alors pour commencer, les joueurs vont choisir un personnage pour jouer et récupérer leur jeu de cartes correspondant. Sur le plateau, les joueurs placeront leurs figurines sur leur case, puis vont tirer 5 cartes de leur deck comme main de départ. Le jeu fera ensuite des allers-retours entre les joueurs, effectuant chacun 2 actions qui se traduisent soit par une manœuvre, un stratagème ou une attaque. Le gagnant est le joueur qui est capable de réduire la santé de l'autre joueur à 0 en premier. Chacun a une ou plusieurs petits trous représentant sa vie. Alors avant de s'intéresser au personnage de Cobble and Frog, faisons un tour des différentes actions. La première s'appelle manœuvre, et même s'il s'agit d'une seule action, elle se compose en 2 phases. Tout d'abord, vous devez piocher une carte, et deuxièmement, vous pouvez déplacer vos combattants sur le plateau jusqu'à leur valeur de mouvement indiquée sur la carte. Alors cette action est la façon d'où vous gagnerez le plus de cartes pour effectuer encore plus d'actions tout au long de la bataille. Attention tout de même parce que chaque joueur n'a qu'un total de 30 cartes dans son deck et une fois celle-ci épuisée, vos personnages deviennent épuisés. Dans ce jeu, vous ne remélangez pas votre défausse et non, à la place, vos personnages subiront 2 dégâts à chaque fois que vous devrez piocher une carte. Alors on peut aussi booster son mouvement en défaussant une carte de sa main pour peut-être éviter de tomber dans un piège. Autre action possible, c'est l'action stratagème. Les cartes stratagèmes sont des cartes spécifiques de votre deck qui ont une icône d'éclair jaune. Ce sont des cartes très spéciales et uniques conçues autour de votre personnage en particulier. On fera le point sur ces 4 personnages juste après, car il faut avant tout que je vous présente la dernière action possible, l'attaque, car on n'est pas là pour rigoler les amis, ça va castagner. Alors l'action attaque, c'est votre principal moyen d'engager et de vaincre votre adversaire pendant la bataille. Ces cartes auront une icône rouge pour l'action d'attaque générale, mais vous pouvez également utiliser une carte polyvalente qui peut être utilisée soit comme attaque ou comme défense. Choisissez ensuite une attaque ou une carte polyvalente de votre main et placez-la face cachée devant vous. Votre adversaire peut alors choisir de jouer aussi une défense ou une carte polyvalente face cachée devant lui pour essayer de se défendre contre votre attaque. Les 2 cartes sont révélées en même temps et résolues en fonction de leur texte correspondant. Alors c'est immédiatement pendant le combat ou après le combat et c'est à ce moment-là que vous allez appliquer les dégâts à votre adversaire. Si votre adversaire a une santé de 0, vous êtes déclaré vainqueur. Vous pouvez aussi jouer d'ailleurs en équipe à ce jeu. Alors dans ce nouveau Unmatch, il y a 4 personnages différents. Dracula, Sherlock Holmes, l'homme invisible et Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors Dracula est livré avec quelques jetons d'acolyte Vampress et Sherlock est bien sûr livré avec un jeton d'acolyte Watson. Jekyll est livré avec un jeton de fiole en carton et vous pouvez manipuler pour le transformer en Jekyll ou en Hyde. L'homme invisible est livré lui avec quelques jetons en carton brouillard que vous placerez autour du plateau et vous pourrez manipuler pour donner à ce personnage une grande liberté de mouvement et des pouvoirs défendables. Le plateau de jeu est recto verso, un côté qui va représenter le manoir de Baskerville, l'autre côté propose les rues et les toits de Soho. Alors une petite préférence pour le côté Baskerville avec des chemins secrets et des règles un petit peu particulières. Alors les 4 personnages de ce nouveau Unmatch, dont son Dracula, avec 13 points de vie et chacun de ses 3 jetons sœurs ont une seule vie chacun. La capacité spéciale de Dracula va permettre d'infliger un dégât à n'importe quel combattant adjacent au début de son tour et de piocher une carte. Vous l'avez compris, il faut rester loin de Dracula, sinon il sucera votre sang, c'est pas cool. Dracula est certainement l'un des personnages les plus forts de cette série. Ensuite, on a Sherlock Holmes et Watson. Alors Sherlock est un personnage avec 16 points de vie au départ, Watson étant un personnage à distance avec 8 points de vie de départ, ce qui est quand même assez élevé pour un acolyte. Alors le mouvement n'est que de 2, comme pour Dracula. La capacité spéciale, c'est qu'ils peuvent jouer leurs cartes sans craindre qu'elles ne soient annulées par un adversaire. Un deck de cartes très polyvalent. Vous pouvez aussi forcer vos adversaires à se défausser de cartes. Ensuite vient Jekyll et Hyde. Alors, Jekyll retourne son jeton pour se transformer en un monstre plus fort ou un homme intelligent. Quelle que soit la forme que vous allez prendre, ils sont tous les deux corps à corps et ont une santé de départ de 16 et un mouvement de 2. La capacité spéciale est leur transformation, bien sûr. Si vous manœuvrez en tant que Hyde, vous subirez un dégât. Attention parce que Hyde frappe dur, faites attention à vous, soyez prêts parce que ça va castagner. Enfin, nous avons l'homme invisible, il est invisible. Non, un personnage avec 15 points de vie de départ et 2 mouvements. Sa capacité spéciale est super intéressante puisqu'il place 3 jetons brouillard au début du jeu dans des espaces séparés de sa zone. Alors lorsqu'il est dans la même zone qu'un jeton brouillard, bien il ajoute une à ses cartes défense et il peut se déplacer entre les jetons brouillard comme si, eh bien, ils étaient adjacents. Ce thème d'ensemble est certainement le plus cohérent de la série Unmatch. C'est le deuxième coffret avec 4 personnages. L'avantage des Unmatch, hein, c'est que vous pouvez jouer avec tous. Hein. Moi, je préfère généralement jouer à ces jeux en duel, 1 contre 1. Mais selon les personnages choisis, hein, comme l'homme invisible en équipe, c'est plutôt sympa aussi. Les personnages jouables dans cette série s'harmonisent tous très bien. Vous l'aurez compris, Dracula est un personnage incroyable et certainement mon préféré de cet ensemble. Allez, on parle encore de jeux avec Vianney d'ici quelques instants du magasin Terre de Jeux à Rennes qui va revenir sur la série The Crew. C'est juste après James Blunt.
C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Et cette semaine, on joue avec Vianney du magasin Terre de Jeux à Rennes. Salut Vianney.
Salut Mathieu, salut à toutes et tous.
Alors, on va parler d'un jeu dit indispensable, The Crew.
Ouais, bah à l'occasion de la sortie du second opus, qui est sorti il y a peu de temps, je voulais remettre un petit coup de projecteur sur ce jeu-là. C'est un jeu qui est sorti il y a maintenant 2 ans en Allemagne et qui est arrivé seulement 1 an plus tard dans nos vertes contrées en France.
Ouais.
Le premier opus, hein, The Crew, quête pour la 9e planète, je crois que c'est ça le sous-titre du premier. C'est un jeu qui, quand il est sorti, a fait un tabac directement, qui a eu l'As d'Or Expert, qui a eu des prix, des reconnaissances, parce que c'était un jeu qui venait dépoussiérer un type de jeu que la grande majorité d'entre nous toutes et tous connaissons.
Bah, bien sûr.
Le jeu de pli, le jeu de levée. Donc, le grand type de jeu qui couvre la belote, le tarot, le bridge, etc. Et la grosse originalité de The Crew, c'était que c'était un jeu coopératif. Donc l'intégralité des joueurs se retrouve à travailler ensemble, là où d'habitude on avait des jeux qui étaient chacun pour soi ou par équipe de 2 éventuellement, rarement différemment, même si bon, il existe tellement de jeux de pli que ça se trouve il en existe un coopératif obscur que personne ne connaissait, hein. Ça c'est tout à fait possible. Ça fait partie du domaine public et historique du jeu de société, donc il y a sûrement des choses qu'on ne connaît pas. Mais du coup, ce jeu-là a vraiment, moi pour ma part déjà, m'a mis une grosse claque parce que je suis un grand fan de ce genre de jeu depuis des années.
Ouais.
J'ai découvert les jeux de société un peu avec ça aussi. Quand j'étais petit, avec ma maman, on jouait au tarot. Et du coup, retrouver ces sensations-là dans un nouveau carcan, un nouveau petit truc sympa, c'était vraiment grisant l'année dernière et j'avais trouvé ça vraiment génial.
Ouais.
Et le truc, c'est que c'était un jeu qui avait un défaut majeur, même si on pouvait... malgré qu'il ait tout raflé, que je viens de dire, c'était extraordinaire. Son défaut majeur, c'était qu'il était inscrit, qu'il était jouable de 3 à 5 joueurs, mais en pratique, il était vraiment bon à 4. À 3, c'était trop facile, le challenge n'était pas assez relevé. Et à 5, le jeu était très difficile et donc vraiment dédié à un public de joueurs qui ont envie de se prendre le chou, de rater plein de fois, et puis pour finalement y arriver. Donc ça en faisait un jeu un peu difficile à sortir. Et pas toujours très simple à jouer, quoi. Et cette année, en fait, du coup, là, en septembre, si je dis pas de bêtises, le second opus est sorti. Donc toujours de Thomas Singh, hein, qui est l'auteur de ce jeu-là. Et le second opus, je voulais en parler parce que corrige les défauts du premier et du coup vient à mon sens exploser le plafond de verre des jeux de pli. Pour moi, c'est le meilleur jeu de pli auquel j'ai joué de ma vie et je pense qu'avant de faire mieux que ça, il va falloir taper très très fort. L'idée en gros, c'est que donc dans The Crew, on se retrouve en fait à faire donc du jeu de pli classique, j'ouvre une couleur, je dois suivre si j'ai la couleur, si j'ai pas la couleur, je peux couper, je peux pisser. Je passe les détails, ça, ceux qui connaissent ces jeux de pli devraient s'y retrouver. Ceux qui connaissent pas, ce sera l'occasion de découvrir. L'idée en gros originale de The Crew, c'est de dire chaque joueur a une mission à accomplir. Par exemple, toi Mathieu, tu dois remporter
le 6 rose. Allez.
Ouais, voilà.
On y était presque. Voilà.
Et donc on va tous travailler pour ça. Et puis le jeu va se complexifier de partie en partie. Au début, il y avait que toi qui avais une mission, puis moi aussi je vais en avoir une, etc., etc. Et donc dans ce second opus, déjà, premièrement, la difficulté des missions est adaptée aux fonctions du nombre de joueurs.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on joue à 3 ou à 5, on aura des missions qui seront plus ou moins difficiles. Et ça corrige le fameux défaut dont je parlais tout à l'heure du nombre de joueurs. C'est-à-dire que moi, j'ai joué à 3, j'ai pas encore joué à 5, mais nul doute que ça fonctionne puisque ça marche à 3 et à 4.
Ouais, à 4, ça fonctionne nickel.
Bah oui, enfin là, comme celui d'avant, ça c'est, y a aucun souci. Et ça lui donne ce petit boost par rapport à l'ancien. Moi, à mon sens, il efface complètement le premier. Il n'y a quasiment plus aucun intérêt à acheter le premier et à jouer au premier. Le 2 est vraiment au-dessus du lot. À mon avis, quand on a beaucoup joué au 2, on peut se faire le premier parce qu'il est suffisamment différent, mais je vois presque plus l'intérêt de garder le premier. Et la deuxième chose très intelligente et très intéressante, c'est que dans tout jeu de pli et tout jeu de levée, souvent les joueurs peuvent un peu crier au scandale parce qu'il y a du hasard, on n'a pas la bonne main, on n'a pas les bonnes cartes. Et donc dans The Crew, il y a ce syndrome-là, mais alors puissante mille, parce qu'on est tous ensemble, et on dit tous, ouais, mais si on a perdu, c'est dégueulasse, c'est parce que toi t'avais pas la bonne main, nanani, nanana. Et ça fait partie du plaisir du jeu, évidemment. Mais dans le 1, il y avait un vrai défaut sur les premières missions qu'on fait, où parfois vraiment le hasard venait casser le jeu, alors que c'est pas du tout l'esprit d'un jeu de pli, et encore moins celui de The Crew. Et dans le 2, ils ont trouvé une petite règle, une petite technique, une petite virgule pour permettre à ces premières missions d'être beaucoup plus tactiques et stratégiques dès le départ. C'est des toutes petites astuces comme ça, c'est des points de détail de règles, mais je pense que Thomas Singh et Cosmos ont vraiment ajusté à la perfection. En gros, ils avaient un joyau qui était déjà nickelement taillé, et ils ont rajouté 2-3 petits coups de taille pour faire en sorte que ce soit juste un bijou, quoi.
Ouais, on a 90 tâches, hein, donc avant de les faire, y a de quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, la particularité donc de The Crew, c'est effectivement, tu viens de le dire, qu'il y a des missions en fait qui vont se faire en campagne un petit peu, où on va progresser et les missions vont changer. Et dans le premier, en fait, cette progression est fixe, c'est-à-dire qu'une fois que tu as joué la mission 3 sera toujours la même,
oui,
entre guillemets, à peu de choses près, d'une partie sur l'autre. Par contre, dans le second opus, c'est très différent. Dans le second opus, moi j'ai fait plusieurs parties avec plein de groupes différents, et les premières missions n'ont jamais été les mêmes. On a fait des premières missions, je me suis fait ça il y a pas longtemps avec ma famille, une mission niveau 4 qui d'habitude, chez moi ça se passe très bien. Et là on a fait un tirage, mais infernal, où on y a passé des heures dessus, impossible de la passer, quoi. C'était vraiment hyper bien pensé. Enfin voilà, moi je tenais à reparler de ça, parce qu'il faut vraiment, si vous connaissez pas, essayez absolument. C'est vraiment à essayer de toute urgence. Pour moi, c'est un des plus gros bijoux de jeux de société qui est sorti dans les dernières années.
Ouais, et puis ce qui est vraiment bien là dans cette nouvelle version, comme tu disais tout à l'heure, c'est que c'est selon le nombre de joueurs, tu vas tirer un nombre de tâches différentes, quoi. Et ça, c'est vraiment top, quoi.
Alors c'est un peu plus vicelard que ça dans le 2. Hein. C'est que le nombre de tâches ne dépend pas du nombre de joueurs, c'est la difficulté de la tâche qui est ramené au nombre de joueurs.
Oui, voilà, ouais, c'est oui.
Ah ouais. Donc c'est pour ça que je pense que d'ailleurs ils ont vraiment travaillé dur, parce que c'est pas évident de niveler ce genre de choses, de dire par exemple un joueur récupère le 9 rose, est-ce que c'est une tâche qui est aussi facile à faire à 3, à 4 ou à 5? C'est quand même compliqué, je pense que ça demande pas mal d'heures de test et pas mal de réflexion, quoi. Et ils l'ont fait pour, comme tu disais, une centaine de tâches différentes, donc c'est un gros gros boulot, quoi.
Bon, toi demain.
Petite...
Oui, vas-y, Vianney.
Petite mention spéciale juste pour dire, dans la version française, Yellow a inclus une variante pour deux joueurs, qui sur le premier opus ne marchait franchement pas, elle n'était pas très intéressante.
Ouais.
Et par contre, sur la seconde, comme l'ajustement en termes de joueurs a été corrigé, en fait ça marche très bien. J'ai beaucoup joué à deux et j'ai trouvé ça excellent. Alors il y a des jeux à deux qui seront plus intéressants et plus intelligents, mais franchement, par rapport au type de jeu, à deux joueurs, ça n'a pas grand-chose à envier aux cadors du genre, type Anabi, etc. Quoi.
Ah oui, d'accord. Ok. J'ai pas testé à deux. Faut que je teste à deux, tiens.
C'est vraiment très bien. Il y a juste quelques configurations quelques tâches qui ne marcheront pas.
Ouais.
Des trucs, des purs hasards de combinaisons de cartes qui vont pas marcher. Par exemple, si tu vas te retrouver avec deux tâches, du coup, qui vont pas du tout être possibles. Genre, tu dois remporter le premier pli et tu dois pas en remporter.
Ah oui.
Compliqué. Hein, ah, c'est pas facile. Et en fait, ça à deux, du coup, ça peut arriver, mais il l'explique très bien dans les règles. De toute manière, si ce genre de choses arrive, tu fais un tirage à nouveau. C'est pas grave, ça c'est très. Franchement, j'ai dû faire là une centaine de parties différentes, c'est le genre de truc qui m'est arrivé deux fois, donc franchement.
Bon, toi, du coup, dans le magasin, tu vas vendre que le 2 maintenant, alors.
En fait, si tu veux, c'est très bête, on garde le 1 parce qu'il y a des gens qui vont, malgré tout, s'ancrer dans ce qu'ils connaissent.
Ça, oui, c'est lui qui a eu l'as d'or.
Les aventuriers du rail, Monopoly, etc. Les gens vont naturellement vers les opus qu'ils connaissent, malgré des conseils que nous, on peut leur donner en disant « Vous feriez mieux de vous axer vers un autre opus qui est mieux ou qui a des qualités différentes. » Donc, on va pas déréférencer le 1. Par contre, c'est clair et net que le 1, on va beaucoup moins le mettre en avant et qu'on va mettre en avant le 2. Et souvent, moi, quand les gens, là, depuis qu'il est sorti, veulent prendre The Crew, je leur dis « Attention, il y a le 2 qui est sorti. Moi, je trouve que c'est mieux. Je leur explique pourquoi.
Ouais. »
Et en général, les gens partent avec le 2. Mais il reste des gens qui partent avec le 1. Et c'est normal. Hein, c'est sentiment de sécurité. Puis après, voilà, les gens peuvent croire que je les mitonne et que je leur dis n'importe quoi. Okay. Ça peut aussi exister. Hein. Tu sais, le commerçant, des fois, il est mal perçu. On croit qu'il ment et tout.
Bon, c'est quand même, ça va être quand même compliqué pour avoir un prix pour le 2. Parce que...
Eh ben, moi, c'est la grosse interrogation que j'ai. Parce que, très honnêtement, s'il n'y a pas The Crew 1, The Crew 2 gagne un prix, c'est sûr et certain.
Ouais.
C'est
juste
une évidence. Et comme The Crew a été primé, ce serait osé de la part du jury des As d'Or, par exemple, de le primer à nouveau.
Ouais.
Mais moi, je crois qu'il le mérite amplement. Et je vois. Enfin, pour moi, ce serait dire bah ouais, le premier était extraordinaire, le deuxième est encore mieux. Et désolé, dans l'année, il n'y a pas beaucoup mieux, quoi. Et je crois que dans cette année, on n'a pas eu beaucoup de jeux qui peuvent tutoyer la qualité dans The Crew Mission Sous-Marine.
Ouais. Et puis c'est peut-être possible parce que maintenant il y a 4 catégories à l'As d'Or, donc...
Ouais, il y a une nouvelle catégorie qui fait son apparition là, un nouveau Pokémon.
Les initiés, voilà, peut-être que The Crew pourrait être dans cette catégorie là finalement.
The Crew, clairement, la catégorie initiée, je pense que tout le monde l'a lu comme ça. Avant il y avait enfant... As d'Or et expert. Aujourd'hui, il y a enfant, As d'Or, initié et expert.
Ouais.
Et je pense que les fameux débats de The Crew est-il un jeu expert l'année dernière ont dû un peu saouler le jury. Et le jury s'est donc octroyé le droit de faire un prix initié qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais qui a priori, c'est pas de l'expert et c'est pas non plus de l'As d'Or.
Eh ben, on verra déjà s'il est nommé ou pas.
Ouais, c'est ça. Non, mais peu de chance. Après, moi, je crois que l'année dernière, on a vu que Dragomino a gagné l'As d'Or. Beaucoup de gens s'interrogeaient avant sur est-ce que Dragomino pourra gagner étant donné que King Domino nanani nanana. Et en fait, Dragomino a gagné le Kinderspiel. King Domino, si ma mémoire bonne, l'avait gagné.
Ouais.
Je crois pas que ce soit grave de primer une deuxième version d'un jeu si cette deuxième version est suffisamment différente et apporte de réelles choses.
Alors,
la vraie question, c'est est-ce que le The Crew 2 apporte suffisamment de choses.
Alors je vais aller plus loin, Vianney. Est-ce que King Domino Origins peut être nominé?
Non. Alors, pour moi, ça, non. C'est un très chouette jeu, hein, il n'y a pas photo. Mais alors, la production ludique est d'une telle qualité maintenant, ces dernières années, que je pense qu'il ne faut pas juste être un bon jeu, il faut être extraordinaire.
Ouais.
Et King Domino Origins n'est pas extraordinaire, à mon sens.
Très bien.
C'est face par rapport à d'autres sorties. Je crois que tu en as parlé cette semaine, mais il y a l'Empire de César, notamment. Moi,
ah, l'Empire de César, ouais. Ah oui, l'Empire de César, ouais. Ah ouais, ça va être compliqué, mais je pense qu'on fera une émission spéciale où chacun donnera ses nominés et on verra qui sera le plus proche des chroniqueurs.
Ouais, d'habitude je fais mes paris l'été, j'ai pas fait cet été, je crois.
Bah attends, il y a encore d'autres sorties qui arrivent.
Ouais, mais justement, j'aime bien parier quand tout n'est pas sorti, comme ça j'ai des petites surprises après.
Salut Vianney, à la semaine prochaine. Ah non, pas la salut. Semaine prochaine, c'est le 11 novembre, dans 15 jours Vianney.
Ouais, à plus tard quoi.
Plus tard, salut.
Bonne journée, salut.